avec Hélène Denis.
Bonjour à tous et à toutes. C'est le 4 février 2026. Aujourd'hui, milieu de semaine. J'espère que vous allez bien. C'est doux à l'extérieur. On est bien quand même pour aller prendre une marche. Oh, vous n'êtes pas d'accord, Sam?
J'ai marché, moi, là, 25 minutes. Alors,
minutes.
J'étais content d'arriver.
Oui. oui. Mais est-ce que vous étiez habillé? Bien habillé?
Ah oui, très, très bien habillé. Oui. Très bien.
Bon, on n'a pas eu la même sensation. Vous êtes plus frileux que moi. Moi qui se pensais très, très frileuse. Mathieu, vous, comment ça a été? La marche?
Pas assez longue.
Oui. Vous, vous aimez le grand froid.
Oui.
Oui.
Je marche 40 minutes le matin, peut-être.
Oui. Oh. Puis, ça s'est bien passé?
Ben oui.
Oui. Aviez-vous une tuque?
Toujours.
Foulard?
Toujours. Mitaine? Pas aujourd'hui. Mitaine, oui.
Ah oui? Faut pas sortir l'hiver, la falle à l'air, comme dit ma mère.
Ah oui, oui.
La falle, c'est un drôle de mot, hein? Je sais pas
la falle
ça
basse, la falle à l'air.
Oui, la mine basse. Ah, la falle basse, oui.
On entendait ça, okay. La falle basse.
Bon, faudra regarder. On va demander à Monique, à sa capsule linguistique, de nous décortiquer le mot falle. Bon, alors, Serge, vous avez déjà parlé. Continuez. Vous allez nous présenter, un article qui concerne la savonnerie Barcelou,
oui.
Qui a été victime d'un incendie récemment.
Ben oui. C'est-à-dire, pas la savonnerie elle-même, mais l'édifice dans lequel était la savonnerie Barcelou, et ensuite les produits Familex. Et c'est passé au feu dans la nuit du 20 janvier au 21... du 20 au 21 janvier.
2026,
oui, c'est tout récent.
Oui, ça a entraîné la fermeture du pont Jean-Cartier.
Ben oui,
puis l'endroit est complètement perte totale, c'est en ruine.
Oui, parce qu'ils ne pouvaient pas sauver l'édifice. C'était trop endommagé. Et il y avait, ce que j'avais lu aux nouvelles, il y avait une grosse enseigne sur le toit. Et l'édifice était tellement fragilisé par l'incendie qu'ils avaient peur que l'enseigne tombe et que ça tombe sur le pont, justement.
Alors, vous allez nous raconter l'histoire de cet endroit-là, qui est assez intéressante et palpitante, qui a causé aussi des maux de tête à ceux qui ont construit le pont Jean-Cartier.
Oui.
Merci, Serge. Isabelle, nous la retrouvons avec plaisir, avec un palmarès, comme on aime. Bonjour, Isabelle.
Ben oui. Alors, c'est cet article de Félix Desjardins qui est paru dans le Journal de Montréal dernièrement. Donc, 9 habitudes pour changer sa vie en un mois. Évidemment, c'est pas... ça ne veut pas dire que la vie va changer du tout au tout, mais c'est plus pour commencer un changement.
Oui.
Mais je pense que oui, c'est sûr que je suis pas sûr que tout le monde va pouvoir adhérer à toutes ces habitudes-là. Mais si on le fait, je pense ça que oui, on voit un changement en un mois.
Bien, on va vous écouter avec beaucoup d'attention, Isabelle. Merci d'être là. Et puis, c'est la semaine de la canne blanche depuis le 2 et ce jusqu'au 8 février. Et nous parlerons avec René Binet, directeur général du regroupement des personnes handicapées visuelles des régions de Québec et Chaudière-Appalaches, ainsi qu'avec Juliane Perrault, consultante en accessibilité universelle, d'un rapport d'évaluation sur les signaux sonores aux intersections de la ville de Québec. Nous aurons également une rencontre. J'ai bien hâte de lui parler parce que moi, je m'intéresse plus ou moins aux chiffres. Je préfère les lettres, mais il faut s'intéresser aux chiffres et à l'argent. Et Marianne Spear, qui est conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective, a lancé récemment un livre. C'est son premier livre intitulé « Apprivoiser l'argent », un guide accessible pour mieux gérer son argent. Elle sera avec nous autour de 10h30 et nous prendrons des nouvelles du Canada francophone avec Julien Caillouette. Allons-y avec Serge.
Oui, alors, cet incendie qui a eu lieu dans la nuit du 20 au 21 janvier a fait disparaître l'un des derniers vestiges de la vitalité industrielle du centre-sud d'autrefois. Un article du Devoir, paru le 21 janvier, un article de Philippe Renaud. Alors, l'incendie qui s'est déclaré tard en soirée du mardi 20 janvier sur la rue de Lormier et qui a forcé la fermeture du pont Jacques-Cartier jusqu'en après-midi, le 21, le lendemain, a lourdement endommagé ce que des experts considèrent comme l'un des derniers vestiges de l'histoire industrielle du faubourg à la Mlasse. C'est ça qui a tellement marqué, parce que c'est vraiment un des derniers vestiges de cette époque-là.
Oui, du faubourg à Mlasse.
Oui, à Mlasse. L'ancienne savonnerie Barsalou a à ce point façonné l'image du quartier que ses propriétaires ont obligé les ingénieurs du pont Jacques-Cartier à redresser sa voie d'accès. C'était le symbole de l'affirmation du secteur des faubourgs et l'incarnation de tout l'esprit du centre-sud, écrivaient les propriétaires de l'édifice, la Société de développement Bertone, dans leur plan de revalorisation qui était en cours. Ironie du sort, le spectaculaire incendie ayant forcé la fermeture temporaire du pont Jacques-Cartier est le dernier affront fait à ce lien inter-rive, car c'est en raison de l'entêtement des propriétaires de cette ancienne savonnerie, la famille Barsalou, face à la Société des ponts qui désirait les exproprier, que les concepteurs du pont ont dû redessiner la courbe Craig, surnommée « courbe de la mort » en raison des nombreux accidents automobiles qu'on y a recensés. Quand vous entrez à Montréal par le pont Jacques-Cartier, en arrivant, là, il y a cette fameuse courbe-là.
Oui, oui, oui.
Et on voyait bien l'enseigne Familex, là, maintenant, qui était restée. Alors, homme d'affaires prospère et tout premier maire de la municipalité de Maisonneuve, dans l'est de Montréal, qu'il a annexé en 1918, Joseph Barsalou, qui a vécu de 1822 à 1897, fut tour à tour encanteur, promoteur immobilier, copropriétaire de la Canadian Rubber Company et fondateur de la savonnerie Barsalou. Reprise par son fils Hector, la compagnie s'est installée au 1600 de l'avenue de Lormier lors de l'inauguration du bâtiment en 1910. En 1926, plusieurs résidents du faubourg furent expropriés pour faire place au futur pont, mais Hector et son frère refusèrent l'offre d'achat du terrain soumise par le constructeur. Depuis cet événement, la loi d'expropriation en vigueur aujourd'hui ne permet qu'en de très rares cas aux propriétaires de défier la machine bureaucratique. Ah, c'est les Barsalou qui ont vraiment fait changer les choses.
Et pour le mieux,
oui,
disons
oui, certains. Oui, bien c'est ça. Ce serait triste si on démolit quelque chose qui est un peu patrimonial pour faire place au progrès, c'est toujours le bon, en tout cas.
Le nœud gorgien.
Ouais.
Pas gorgien.
Au-delà de l'anecdote, l'intérêt historique de l'édifice, explique Éric Giroux, directeur responsable de la recherche des collections de l'Écomusée du Fiermonde, tient d'abord à sa conception signée Eugène Payette, un architecte important à Montréal, à qui l'on doit notamment l'ancienne bibliothèque centrale, devenu l'édifice Gaston-Miron, face au parc La Fontaine. C'est un magnifique édifice à colonnes, tout ça, là, c'est très, très beau. Aujourd'hui, c'est le siège du Conseil du patrimoine et du Conseil des arts de Montréal. L'architecte Payette a également conçu l'ancienne bibliothèque Saint-Sulpice de la rue Saint-Denis et les bâtiments du Collège André-Grasset. Donc, un architecte vraiment prolifique, hein? Des œuvres qui marquent le paysage montréalais, ajoute Éric Giroux. De plus, qu'un bâtiment industriel marqué d'un certain souci esthétique dans le travail de briques soit signé par cet architecte, c'est quand même intéressant. La savonnerie fut vendue à l'American Procter & Gamble, puis à Familex, les produits Familex, fondés par l'entrepreneur Roméo Parent, qui s'y est installé dès 1943. On fabriquait toutes sortes d'objets à usage domestique, des détergents, des savons, des parfums, des essences alimentaires, rappelle le directeur de l'Écomusée du Fiermonde, qui avait présenté en 2021 une exposition sur la présence de cette entreprise à partir des archives de son fondateur. Il y avait le monsieur Familex qui venait chez nous, chez mes parents, parce
que
ma grand-mère achetait, je ne sais pas si c'était, je ne me rappelle pas quel produit c'était, de la vanille ou d'autres choses, mais je pense qu'il y avait un sirop aussi Familex dont j'aurais besoin ce matin.
Un sirop contre la toux. Oh, oui, vous en avez vraiment besoin. Mais je ne pense pas qu'il va être à l'écoute et va pouvoir vous aider,
non,
Familex.
Non, malheureusement, oui. Les produits domestiques fabriqués par Familex étaient écoulés par des vendeurs itinérants. C'était leur marque de commerce. Le personnage du représentant Familex faisait du porte-à-porte et il a été important dans la société québécoise des années 50 et 60 à Montréal, mais surtout en province, où les gens n'avaient pas nécessairement accès à beaucoup de magasins, puis il n'y avait pas à ce moment-là les fameux achats en ligne avec Internet là, sur tous les sites. Il visitait les gens avec sa valise, ses catalogues, ses petits cadeaux qu'il pouvait offrir aux familles. Après le départ de Familex en 1974, l'édifice a offert des espaces locatifs. La CSN, dont le siège social avoisine l'ancienne savonnerie, y a occupé des bureaux et même des studios d'enregistrement. Quand je passais devant l'édifice, je voyais ça, des studios d'enregistrement. C'est annoncé. Dans l'incendie, les Montréalais perdent ainsi une des rares traces du patrimoine immobilier industriel qui subsistait sur l'avenue de Lormier. L'avenue de Lormier, rappelle M. Giroux, fut un important corridor industriel à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Là où se trouve aujourd'hui l'esplanade Cartier, avait été construite les premières usines du Canadien Pacifique dès 1882. Et lorsque le CP a quitté l'endroit pour s'installer au Shop Angus, bien, ces bâtiments ont conservé leur vocation industrielle. Des entreprises métallurgiques s'y installent jusqu'au début des années 90, par exemple. Plus au nord, s'est implantée une grande entreprise de fabrication de vêtements, la Standard Shirt Company, active jusqu'aux années 1970, ainsi qu'une biscuiterie. La plupart de ces bâtiments ont aujourd'hui disparu, de sorte que la savonnerie était l'un des derniers témoins de cette époque, une trace de l'identité du quartier. Même l'usine Molson, à quelques coins de rue de la savonnerie sinistrée, sera en partie démolie pour faire place au nouveau Quartier des Lumières, qui accueillera à terme près de 5000 logements, indique Dinou Bumbarou, directeur des politiques à l'organisme Héritage Montréal. Mais pour Molson, je pense qu'on va garder la fameuse cheminée, l'enseigne. Je pense que ça fait partie de la signature de Montréal, en quelque part.
En quelque part ou à Montréal?
Dans une expression, en quelque part. Hey!
J'en profite pour faire une petite parenthèse, oui. Parce que tantôt, j'ai dit le nœud gordien, puis je me disais, c'est pas ça, c'est le nœud gordien.
Gordien, oui.
Oui, patrimoine, progrès, c'est un problème complexe.
On fait souvent l'erreur, on dit souvent ça, le nœud gordien.
Oui, mais oui. C'est le nœud gordien qui désigne, oui, une situation extrêmement complexe ou un problème insoluble. Oui.
À M. Bumbarou dit, on perd un élément du paysage qui explique notre histoire. On peut encore reconnaître l'empreinte du bâtiment dans la courbe menant au pont Jacques-Cartier, mais ce n'est pas comme avoir le bâtiment lui-même qui est encore là. La société bretonne, qui l'a racheté de la société Cosolfec il y a 5 ans, projetait de convertir en immeuble résidentiel doté d'une nouvelle tour d'une vingtaine d'étages, tout en conservant le caractère architectural de l'usine originale. Il y aurait eu une tour, bon, ça là. Il y a beaucoup de tours là, qui montent à Montréal. Une des orientations du programme particulier d'urbanisme des faubourgs dévoilé par l'arrondissement de Ville-Marie en 2021 était de préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti du quartier, dont l'ancienne savonnerie. On voulait vraiment le mettre en valeur. Les deux ailes du bâtiment bordant les voies publiques sont à conserver et leurs caractéristiques architecturales à mettre en valeur, incluant la cheminée, lit-on dans le document. Alors, l'ancienne savonnerie rappelait qu'il y avait aussi des usines à cet endroit. On pense beaucoup à celles qui occupaient les rives du canal de la Chine, dans l'ouest de la ville, mais le tissu résidentiel et industriel des faubourgs, à l'est, était très riche et très actif. On l'oublie souvent. Alors, voilà.
Super article. Mm-hmm. La savonnerie Barsalou, repère historique et géographique de Montréal, l'incendie qui a fait disparaître l'un des derniers vestiges de la vitalité industrielle du centre-sud d'autrefois, c'était dans Le Devoir du 21 janvier dernier. Mm-hmm. Texte écrit par l'excellent journaliste Philippe Renaud et lu par le non moins excellent Serge Bradet. Bien, soignez bien votre rhume.
Oui, oui, oui.
Puis on se retrouve la semaine prochaine.
D'accord.
À bientôt.
Bye. Dum 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 d
je le disais en début d'émission, c'est la semaine de la canne blanche. Et puis, à cette occasion, le regroupement des personnes handicapées visuelles des régions de Québec et Chaudière-Appalaches qui a publié un rapport d'évaluation sur les signaux sonores aux intersections de la ville de Québec intitulé « Point de vue des usagers sur les signaux sonores de la ville de Québec ». Un réseau fonctionnel à améliorer. Et pour en discuter, je joins René Binet, qui est directeur général du regroupement des personnes handicapées visuelles des régions de Québec et Chaudière-Appalaches, qu'on appelle aussi le RPHV, ainsi que Julie-Anne Perrault, qui est consultante en accessibilité universelle. Bonjour.
Bonjour, Madame Denis.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, Monsieur Binet, d'abord, qu'est-ce qui a motivé le RPHV à entreprendre cette évaluation des signaux sonores aux intersections de la ville de Québec? Mais d'abord, il faudrait aussi préciser, c'est quoi un signal sonore?
D'abord, un signal sonore, dans le fond, c'est l'équivalent du feu de piéton au niveau visuel. C'est-à-dire que soit c'est l'équivalent pour autant au niveau du petit bonhomme vert qui se promène. Et le clignotant jaune, ça permet, dans un langage plus commun, là, je vous dirais que ça donne un cue à la personne aveugle pour pouvoir traverser la rue lorsque c'est le temps sur un feu de piéton. Et aussi, ben, souvent, c'est la plupart du temps, maintenant, de plus en plus, c'est une mélodie qui se promène d'un côté de la rue à l'autre, et ça permet à ce moment-là à la personne handicapée visuelle de s'orienter lors de sa traverse.
D'accord. Alors, pourquoi vous avez ressenti justement le besoin d'aller sur le terrain maintenant, là?
Ben, parce que on avait des feedbacks, que ce soit de nos usagers ou des spécialistes en orientation et mobilité, à l'effet que ben, il y avait des problèmes sur le terrain. Alors, nous, en 2024, on avait demandé à la Ville de Québec de faire un peu le travail qui s'est fait. On avait demandé à la Ville de Québec de le financer. Bon, et la Ville a refusé, et ça lui appartient. À ce moment-là, bon, on s'est retourné vers l'Office des personnes handicapées, et via son programme PESOP, ben, à ce moment-là, on a pu faire cette recherche.
Et qu'est-ce que vous avez évalué exactement, Julie-Anne Perrault?
Oui, donc en fait, on a évalué toutes les traversées munies d'un signal sonore à Québec. Il y en avait sur 190 intersections, ça compte en fait au total de 254 couloirs avec un signal sonore, parce qu'on peut en avoir plus qu'un par intersection. Mm-hmm. On s'était créé une grille d'évaluation prenant en compte l'ensemble de la chaîne de déplacement, soit autant le système technique que le décompte et l'aménagement physique, donc tous les éléments essentiels pour la sécurité.
Et quels ont été vos principaux constats?
Oui, alors on a constaté que 24 % des traversées présentaient au moins un enjeu technique ou d'aménagement. Donc ça, c'est un gros chiffre, effectivement, mais on nuance assez vite. La majorité des installations sont utilisables au quotidien. Les gens peuvent traverser la rue, mais pas de manière optimale et pas toujours sécuritaire, en fait. Donc, par exemple, un enjeu fréquent, c'était l'absence de panneaux d'interdiction de virer à droite sur feu rouge. Donc, ça n'empêche pas de traverser, mais ça met en danger parce que la personne ne s'attend pas à pouvoir croiser un véhicule.
Ouais.
Donc là, ça peut la surprendre, en fait, et c'est ça qui devient dangereux. Puis ensuite, sinon, il y avait d'autres enjeux aussi fréquents là, qui n'empêchaient pas l'utilisation, mais qui nuisaient à l'orientation, soit les localisateurs faible ou muet, le petit boîtier qui émet un bruit continuellement sur le coin de la rue là, pour trouver le bouton d'appel, et les cornets faibles ou muets d'un côté. Donc, la mélodie venait seulement d'un des deux côtés, ce qui fait que durant la traversée, bien, la personne a pu dévier selon son degré d'aisance. Donc, finalement, la majorité des éléments qu'on a trouvés étaient principalement des irritants, mais qui peuvent avoir de vraies conséquences.
Julie-Anne, est-ce que vous savez si la situation est similaire à Montréal?
Oui, en fait, elle l'est, en effet. Le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain avait fait 3 tournées d'évaluation en 2015, 2017 et 2020. Puis on s'était d'ailleurs inspiré de cette démarche-là pour faire la nôtre. Le taux de problème qui avait été constaté là, en moyenne durant les 3 évaluations, c'est 17 %. Donc c'est similaire à Québec quand on enlève les enjeux de panneaux de virage à droite sur feu rouge, vu que c'est toujours interdit à Montréal. Donc on peut dire que Québec performe pas si mal que ça. Là. Ça veut juste dire que c'est complexe là, d'entretenir ce type de réseau.
René Binet, si 24 % des intersections ont un problème, pourquoi la ville ne reçoit pas plus d'appels ou ne coule pas sous les plaintes?
Oui, bien ça, ça a été un gros questionnement qu'on s'est fait pendant tout le travail, pendant la recherche. Et je vous dirais que, dans le fond, ce qu'on se rend compte, c'est que il n'y a pas de plainte parce que souvent, les gens sont... Lorsqu'on installe un signal sonore, souvent, c'est à la demande. Alors, à ce moment-là, c'est sûr que les gens sont habitués de l'utiliser. Alors, avant de faire une plainte, c'est sûr qu'on attend souvent qu'il soit brisé totalement. Et d'autre part, ben, je vous dirais que c'est une norme qui est quand même complexe. Alors, les gens, souvent, s'ils appellent au 3-1-1, ben, ils ont peut-être peur là, de mal cibler le problème. Et aussi, ben, comme la plupart des gens, ben, des fois, ils n'ont pas nécessairement le temps aussi de faire une plainte.
Bon. Alors, quelles sont vos principales recommandations, Juliane?
Alors, oui, on suggère principalement une amélioration des processus d'entretien et de vérification de la ville. Donc, il y en a déjà, mais il faudrait les renforcer là, pour améliorer la situation. Puis aussi, il y a une amélioration de l'expérience usagée, donc en prenant en compte l'ensemble de la chaîne de déplacement, notamment en allongeant le temps de traversée, qui est considéré comme stressant là, parfois là, à cause de sa courte durée.
Mm-hmm. On peut concevoir la chose facilement, mm-hmm. même quand on a une visibilité saine. Souvent, on trouve que ça va très, très vite. René, comment la Ville a-t-elle réagi à vos constats et vos recommandations?
Ben, je vous dirais qu'en général, ça a quand même été bien reçu parce que durant qu'on faisait l'enquête, lorsqu'on trouvait une défectuosité, on la signalait et c'était réparé là, assez rapidement. Fait qu'à ce niveau-là, la Ville l'a bien reçu. D'ailleurs, on a fait une rencontre avec la Ville avant de publier le rapport, la version finale. Mm-hmm. On a fait une rencontre en décembre là, pour justement le présenter et on a modifié certaines choses par rapport à ce qu'ils nous ont amené comme question.
Non, mais c'est bien, le rapport ne sera pas tabletté. Là. Il y a une vraie écoute.
Absolument, absolument. Oui. La Ville a toujours été... La Ville, il faut savoir que la Ville de Québec est le précurseur là, en matière de signaux sonores depuis 1984. Oui, absolument.
Et quel message vous voulez laisser aux auditeurs, aux auditrices, qu'ils soient handicapés visuels ou non?
Bien, moi, je vais laisser un message, je dirais, plus global. Nous, ce qu'on souhaite, que ce soit au niveau ici à Québec, de notre association, au niveau du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec, c'est de dire, écoutez, un signal sonore, comme je vous disais tantôt, c'est un cue pour permettre à la personne handicapée visuelle de traverser autant que les voyants l'ont. Ben, pourquoi que dans un monde idéal, on n'intégrerait pas les signaux sonores au feu de piéton? L'analogie que je fais souvent, dans tous les téléphones intelligents maintenant, on insère une synthèse vocale lors de la fabrication. Alors, pourquoi on ne le fait pas au niveau des feux de piéton?
Mm-hmm. Alors, il ne faudrait pas que ça soit juste dans un monde idéal, il faudrait que ça soit dans notre monde, point.
Oui, absolument.
Juliane, on peut trouver où ce rapport, si ça nous intéresse de le consulter?
Alors, oui, il est disponible sur le site du RPHV, soit rphv0312.org, et on a une version complète ou une version résumée.
Parfait. Alors, on répète rphv0312.org. Et pensez-vous que ça peut intéresser tout le monde ou particulièrement les gens de Québec et de la région de Chaudière-Appalaches?
Ah, ben moi, je pense que ça peut intéresser, je pense que toutes les gens de la province de Québec, parce que c'est quand même un rapport qui permet de voir on détecte des problématiques, mais c'est des problématiques qui peuvent se présenter aussi dans les autres villes, dans les autres municipalités.
René Binet, directeur général du regroupement des personnes handicapées visuelles des régions de Québec et Chaudière-Appalaches, et Juliane Perrault, consultante en accessibilité universelle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci. Merci.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs du Fred Astaire, revoir un latte cohère. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, t'embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin, là je t'embre. Nul ne peut nous entendre. Dans mon jardin d'hiver.
Jardin d'hiver, chanté par Emma Peters.
Oui, belle interprétation de ce grand succès d'Henri Salvador. Et jardin d'hiver, on parle de quelque chose qui concerne l'hiver, mais qui n'est pas nécessairement positif. C'est vraiment un travail de champion que ces arnaqueurs ont fait. C'est à la une du Journal de Montréal, déneigement, alerte aux fausses factures. On ne sait pas comment ils ont obtenu les informations dans nos contrats, mais il y a clairement eu une fuite quelque part, lance en entrevue avec le journal Mary Lawrence Porter de chez TB Multiservices. Cette compagnie de déneigement située à Lévis, appartenant à Frédéric Brochu, affirme que 5 de ses clients ont été ciblés par cette supercherie. Des dizaines d'entrepreneurs en déneigement des quatre coins du Québec sonnent l'alarme depuis une semaine après que des fraudeurs ont mystérieusement envoyé à leurs clients de fausses factures de retard de paiement. Les malfaiteurs ont reproduit l'intégralité de leur contrat de déneigement. Ils ont ensuite envoyé un courriel aux personnes pour leur rappeler de régler leurs factures supposément impayées. Ils ont même mis la main sur leur numéro de téléphone, leur adresse postale et même leur vrai numéro de contrat avec nous. Soupire Mme Porter, les fraudeurs demandaient aux clients de payer avec un virement Interac, envoyer une adresse courriel presque identique. Ils ont juste ajouté une lettre de plus. En cas de doute, les déneigeurs conseillent à leurs clients de contacter directement leur entrepreneur avant de procéder à un paiement en ligne.
Vous pouvez vous écouter au quotidien avec Hélène Denis.
Sa famille, on choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part, être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Et les oiseaux de passage, ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. À
sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire.
La chanson « Née quelque part » de Maxime Le Forestier.
Je ne sais pas si vous êtes du genre à prendre des résolutions, mais Isabelle, peut-être que vous allez nous motiver à continuer de les respecter, de les suivre, parce que dans les 9 habitudes pour changer sa vie en un mois, il y a quelque chose qui ressemble à des résolutions.
Oui, effectivement. Puis si jamais c'est trop pour vous, ben, peut-être que vous pouvez changer votre vie en 9 mois, puis rajouter une habitude par mois. Au bout de 9 habitudes, ça va peut-être être plus facile à intégrer dans votre vie. Mais il y a des choses que vous faites probablement déjà. Donc, c'est cet article de Félix Desjardins qui est paru dans le Journal de Montréal le 31 janvier. Et il y avait deux articles, aussi un article le même jour, sous la même plume, qui s'intitulait « La recette à suivre pour changer ses mauvaises habitudes pour de bon ». Donc, si jamais vous voulez non seulement faire ça pendant un mois, mais que ça dure plus longtemps, vous pouvez aussi lire cet article-là qui est très intéressant. On donne des trucs donc pour, quand on change nos habitudes, nous aider à les garder.
C'était aussi dans le Journal de Montréal, cet article?
Tout à fait, le même journal, le même jour. Donc, un petit mini-dossier, en quelque sorte.
Donc, 9 habitudes pour changer sa vie en un mois. On n'a pas beaucoup de temps, là, parce que février est entamé puis il ne dure pas longtemps.
Non, bien, si vous êtes comme moi, vous savez, hein, chaque année, je fais le 28 jours sans alcool, mais je commence le 14 février.
Après la Saint-Valentin? Ou le jour de la Saint-Valentin?
Oui, moi, je suis célibataire, donc la Saint-Valentin, pour moi, c'est... C'est un jour comme un autre, mais c'est ça, c'est mon premier jour. Donc, je vais peut-être commencer le 14 février à changer ces 9 habitudes-là. Donc, la première, 30 minutes d'exercice par jour. Donc, ça, peut-être que vous faites déjà. On est quand même plusieurs. Le journaliste a interrogé 3 personnes, donc une médecin de famille, une psychologue et une nutritionniste pour écrire son article. Et là, c'est la médecin de famille qui nous parle, qui est aussi... experte en prévention gériatrique. Donc, il faut choisir quelque chose qu'on aime et ça n'a pas besoin d'être 30 minutes consécutives, mais plutôt cumulatives. Donc, 30 minutes cumulatives par jour, on est tous capables de faire ça. Elle propose l'alternance entre l'aérobie et la musculation pour les meilleurs résultats. Mais par contre, elle dit que n'importe quelle activité qui va nous faire déroger de notre sédentarité peut être bénéfique. C'est bon pour le cœur, mais c'est aussi très bon pour le cerveau.
Oui, et elle dit aussi qu'il faut que ça soit un peu inconfortable.
C'est ça. Le plus important, en fait, c'est que ça... Donc, autrement dit, pas juste faire une petite marche là, très, très lente qui ne va pas nous faire sentir que notre cœur bat un peu plus vite. Mmh. Effectivement, vous avez bien fait de le souligner. Il faut que ça soit un peu inconfortable. Et les effets à court terme, ben, c'est la sécrétion d'hormones de bien-être, une qualité du sommeil qui va être améliorée et la réduction des fringales parce que ça va nous aider à sécréter de la leptine, qui est l'hormone de la satiété. Et à long terme, ça peut aussi prévenir des maladies neurologiques comme l'Alzheimer et des conditions cardiovasculaires, évidemment, parce qu'on va améliorer notre cardio. Ensuite, réduire sa consommation d'alcool de moitié. Et là, encore, bon, c'est ça, on est bientôt là, avec au début du défi 28 jours sans alcool. Elle dit, le docteur Villemur, qu'il y a quelques années, quand Éducalcool est sorti en disant que l'idéal, c'était zéro consommation, ça a créé un cynisme. Peut-être que ça a un peu découragé les gens parce qu'ils se sont dit, ben là, si zéro, c'est pas capable, fait que tant qu'à ça, je vais continuer de boire autant que je bois. C'est peut-être pour ça qu'elle suggère de juste réduire de moitié. Donc, si vous n'êtes pas capable de descendre à zéro, qui est l'idéal, ben faites au moins la moitié, donc au lieu de 2 verres de vin, buvez un seul verre de vin, vous allez déjà voir une amélioration.
Oui, Isabelle, vous avez dit que le défi 28 jours approchait, mais on est dedans, là, parce qu'on est le 4 février, mais c'est parce que vous, vous commencez le 14.
Quand j'ai lu l'article, c'était la veille.
Oui, oui.
Mais, merci.
Ça me fait plaisir.
Donc, c'est ça. Mon défi à moi commence bientôt. Le vôtre est peut-être déjà commencé. Donc, c'est ça, ça va...
Je fais pas ça, moi, ce genre de défi-là. Je fais juste arrêter de boire. J'ai diminué de beaucoup ma consommation d'alcool.
Oui, bien, moi, ça m'aide un peu, je sais pas, psychologiquement, le fait d'avoir une date. Puis là, ben, c'est, on commence, on se dit que ça va être juste pour un mois, puis éventuellement, on peut continuer plus longtemps.
Chacun sa façon, hein?
Qualité du sommeil accrue, oui, c'est ça. L'important, c'est de s'améliorer. Et chacun à notre façon, il y a notre rythme aussi. Donc, c'est ça, réduire la quantité d'alcool, ça va donner plus d'énergie, améliorer notre morale, détoxifier nos nerfs et nos muscles, apparemment. Et à long terme, encore une fois, la prévention des maladies cognitives, l'amélioration des réflexes et de la vivacité, et réduire nos risques de chute. Évidemment, on reconnaît ici la médecin qui est spécialiste en prévention gériatrique, mais on veut tous avoir une belle qualité de vieillesse, donc c'est jamais trop tôt pour commencer.
Pour commencer ou arrêter de boire?
Pour commencer, oui, c'est ça, à faire des changements.
Oui, oui.
Donc, instaurer une routine de sommeil. Dr. Villemur met l'accent sur la qualité du sommeil et non sur la longueur de la nuit. Elle dit qu'on ne peut pas se coucher à 22 heures et espérer s'endormir à 22h15. Il faut respecter le rythme de notre corps. On a chacun probablement un rythme différent. Ça veut dire pas d'écran 2 heures avant le dodo. Et idéalement, se coucher et se réveiller toujours à la même heure. Et elle mentionne que les autotraitements pour s'endormir, comme le Benadryl, Gravol, les suppléments de mélatonine même, ça diminue la qualité du sommeil.
Oui.
Donc, mieux vaut dormir moins, mais dormir mieux.
Ça m'étonne concernant les suppléments de mélatonine. Il y en a qui ne jurent que par ça.
Moi aussi, ça m'a beaucoup étonnée. Mais
on va croire la docteure Villemur.
Voilà. Et les effets à court terme, ben une hausse d'énergie, amélioration de la mémoire, de l'agilité cognitive et de la réparation cellulaire. Donc, ici, notre corps à se réparer. Puis, à long terme, encore une fois, on va baisser les risques de maladies cardiovasculaires et ça va prévenir la prise de poids. Parce que oui, manquer de sommeil, ça peut avoir un impact sur notre prise de poids. Quatrième conseil, prendre soin du lien avec l'autre. Et je ne saurais pas... trop souligner l'importance de ce conseil-là. On est dans la semaine de prévention du suicide. J'ai vécu moi-même la perte d'un proche dernièrement et le fait de me rapprocher de mes amis, ça fait tellement une grande différence. Donc, là, ici, c'est Geneviève Beaulieu-Pelletier, qui est psychologue clinicienne, qui a aussi écrit un livre, un guide pratique pour s'aider soi-même. Et donc, elle prie chaque personne de briser l'isolement et ça quotidiennement. Donc, il faut essayer d'alimenter une relation ou au minimum de créer un contact social, que ce soit discuter avec un proche, planifier une activité, appeler un ami. C'est un besoin fondamental pour les êtres humains.
Oui, et j'ajoute, Isabelle, en passant, ben toutes mes condoléances. Oui. Là, vous avez perdu un ami très proche. Et j'ai ici la ligne d'aide en cas de crise de suicide. C'est facile à retenir. L'horaire, on est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vous aider, vous accompagner, vous écouter. C'est 988, 988, tout simplement.
Merci beaucoup. Et donc les effets positifs, c'est ça, de prendre soin du lien avec l'autre, l'allègement du quotidien. La sécrétion d'hormones de bien-être, encore une fois, et ça va améliorer notre longévité. Cinquième conseil, mais deuxième dans la même optique un petit peu, s'offrir un moment de plaisir, parce que pour améliorer notre santé physique, on améliore notre santé mentale. Dans mon travail avec mes patients, nous dit la psychologue Mme Beaulieu-Pelletier, je leur demande souvent, il a été où ton plaisir aujourd'hui? Donc, pas juste s'offrir un petit moment de plaisir à chaque semaine, à tous les deux jours, à chaque jour. Le plaisir par le mouvement, c'est encore plus étable, selon elle. Donc, elle mentionne la pratique d'un sport, un instrument de musique, ou simplement de danser dans sa cuisine quelques minutes.
Donc, mettez votre chanson préférée au moins une fois par jour, puis dansez un petit peu. Bref, ça serait « On ne peut plus pertinent de retrouver son cœur d'enfant chaque jour ». J'aime beaucoup comment elle présente « Il faut se créer des bulles de plaisir ». Si on n'en a pas eu de la journée, il faut s'ajuster pour le lendemain. Donc, bon. À chaque jour, pensez à se faire un peu plaisir.
Trouvons nos bulles de plaisir.
Voilà.
Ça peut être tout simple, hein, comme parler de danser dans la cuisine, chanter dans la voiture, manger une bonne brioche.
Oui, ça fait un petit bol de crème glacée là, avec un petit peu de chocolat dessus.
Ah oui, ça peut être une bulle de plaisir.
Peut-être pas que ça soit ça, le plaisir à chaque jour,
non.
Mais vraiment faire quelque chose qui va être pour soi. Donc, je ne vous donnerai pas les effets positifs à chaque fois parce qu'on n'aura pas le temps, mais ça revient toujours pas mal au même. Le fait de se faire plaisir, c'est un antidépresseur naturel, selon la psychologue. Sixièmement, s'arrêter plusieurs fois par jour. Ça aussi, je trouve que c'est vraiment important. Oui, des fois, on est dans la frénésie, métro, boulot, dodo, amener les enfants au hockey, etc.
On est des automates, on oublie, hein?
Oui, c'est
de
ça.
Respirer.
Donc, c'est impératif de prendre des pauses. Elle suggère, Mme Beaulieu-Pelletier, de créer des micro-moments de pleine conscience, détourner son attention des écrans et du travail plusieurs fois par jour. On est sur le pilote automatique et on a tendance à ruminer ce qui est plus difficile. Ça permet de stopper la ligne chronique de stress qu'on peut avoir dans notre journée.
Bulle de plaisir, micro-moments.
Oui, moi, je suis bonne là-dedans. J'avoue que ça, je suis capable de décrocher plusieurs fois par jour.
Bravo.
Mes lacunes sont ailleurs. Septième conseil, cuisiner le plus souvent possible.
Ah,
parce
oui.
qu'évidemment, là, moi, j'ai une chronique alimentation. Là, on a un peu dérogé de ça aujourd'hui, mais il y a quand même des conseils qui regardent votre assiette. Donc, le concept même de sortir son tablier, de planifier ses repas de la semaine peut être vraiment vertigineux pour certaines personnes, mais les retombées positives sur notre santé de cette habitude-là sont inestimables. On met de côté les aliments ultra transformés, on mise sur les aliments entiers et frais. Ça, c'est beaucoup plus facile à faire quand on cuisine soi-même. Alors, c'est en plus là, de nous offrir une plus grande variété nutritionnelle, ça va nous aider au niveau de notre énergie, ça réduit notre consommation d'aliments indésirables, etc. Le huitième conseil...
Et l'action de cuisiner aussi, je trouve que c'est extrêmement thérapeutique.
Oui, je suis d'accord. Ça peut faire partie de plusieurs catégories. Donc, ça peut être cuisiner avec votre famille, donc créer des liens. Ça peut être un moment de plaisir si on aime particulièrement cuisiner. Le huitième conseil, donc réserver 50% de son assiette aux fruits et légumes. Donc, vous pouvez les intégrer quand vous faites la cuisine ou tout simplement ajouter des fruits quand vous n'avez pas assez de légumes dans votre repas. On l'entend souvent, c'est primordial de mettre de la couleur dans notre assiette. Là, ici, c'est Mme Bluchot, la nutritionniste. Je n'ai pas mentionné son nom, mais Judith Bluchot, qui est nutritionniste diététicienne, qui donne ses conseils au niveau de l'alimentation. Donc, elle dit on peut essayer de suivre les récoltes saisonnières. Hein, des fois, les fruits, les légumes sont chers. On achète ceux qui sont en saison. On a tendance à économiser dans ce temps-là. Chaque repas ou collation est une occasion de manger des fruits et légumes. Donc, on peut toujours ajouter un petit fruit, un petit légume. Peut-être se couper, ça c'est mon conseil, à moi, se couper des carottes ou un autre légume qu'on aime beaucoup manger, se faire une petite activité de préparation. Puis après ça, on en a toujours sous la main quand on veut en ajouter. Et le dernier conseil, donc, diversifier les protéines. Les protéines dominent l'espace public en nutrition depuis quelques temps.
Ouais.
Mme Bluchot l'a dit, mais je l'ai vu vraiment sous la plume de plusieurs nutritionnistes qui le déplorent parce que on peut facilement manger trop de protéines. Ça peut être intéressant quand on fait de l'activité physique, mais en général, il ne faut pas dépasser, faut pas manger trop de protéines. Mais surtout, quand on mange des protéines, ben, si c'est de la viande, surtout si c'est de la viande rouge, c'est néfaste pour notre santé. Donc, elle déconseille la surconsommation donc de protéines au détriment d'autres éléments nutritifs. Mais surtout, elle souligne l'importance de varier ses protéines. Donc, intégrer des légumineuses, du tofu, du poisson, des œufs pour réduire la consommation de viande rouge.
J'en profite pour continuer.
Oui.
Allez-y.
Non, allez. Ben, donc, pour aller chercher un plus vaste éventail de nutriments.
OK. Parce que notre collègue Monique Kirouac, qui s'intéresse à la science sous toutes ses coutures, sous tous ses aspects, va parler justement de protéines. Elle a trouvé un texte dans La Conversation. En 2025, les protéines sont passées de nutriments discrets à aliments miracles. Et voici pourquoi cette surenchère n'a rien de scientifique. Je vous invite à être à l'écoute demain à la chronique de Monique Kirouac entre 9h30 et 10h30.
Oh, j'ai lu cet article-là, j'ai failli le choisir, mais je suis contente que quelqu'un d'autre en parle. C'est très intéressant, en effet. Et donc, en terminant, donc Madame Bouchon nous donne un petit truc vraiment facile pour ceux qui sont pas allergiques aux légumineuses comme moi. Tout simplement substituer la moitié de la viande par des légumineuses quand c'est possible. Par exemple, si vous faites une sauce à spaghetti ou un chili avec de la viande, ben remplacez la moitié par des légumineuses. Ça va déjà faire une grosse différence.
Mm-hmm. Un pâté chinois aussi, hein?
Pâté chinois aussi. Et puis, ben, vous allez voir que ça va avoir, en plus des impacts sur votre santé, ça va avoir un impact positif sur le portefeuille parce que les légumineuses, c'est moins cher que la viande.
Oui, la viande hachée a été longtemps très, très économique, mais maintenant, c'est du luxe presque, se faire un hamburger. Bon, bien, merci beaucoup, Isabelle, pour toutes ces informations. Je rappelle que vous avez trouvé cet article dans le Journal de Montréal du 31 janvier. C'est tout récent, sous la plume de Félix Desjardins, 9 habitudes pour changer sa vie en un mois. Je trouve ça extrêmement motivant. Ce sont quand même des habitudes, bon, on les connaît, mais les mettre en pratique, c'est pas si compliqué que ça, finalement.
Exactement.
Merci, à la prochaine.
Merci, à la prochaine.
Je ne la connaissais pas, je dois l'avouer, une pièce de François Dompierre qui s'appelle Le Saute-Mouton.
Oui, beau souvenir. À l'époque de CFGL, je ne sais pas si vous étiez né, mais...
Ça dépend de l'année.
CFGL qui appartenait à Jean-Pierre Coilier. Puis souvent, le soir, on faisait, même le jour, là, on faisait tourner ce genre de musique. Il y avait des chansons et il y avait des pièces instrumentales comme celle-là de François Dompierre. À la une du devoir, puisque aujourd'hui, la revue de presse n'est pas à l'heure habituelle. Là, Serge devait quitter le studio un peu plus tôt que prévu. Alors, on a quand même de la place pour vous parler de ce qui occupe les unes des journaux. J'ai parlé du Journal de Montréal. Maintenant, Le Devoir. De l'Égypte à Gaza, des retrouvailles émouvantes. On a une photo très parlante à la une du Devoir papier. En larmes, ils étreignent longuement leurs proches, se feraient un chemin dans la cohue. Une dizaine de Palestiniens ont regagné la bande de Gaza en ruine après la réouverture très limitée du poste frontière de Rafah avec l'Égypte. La joie se mêle à l'émotion alors qu'ils descendent tôt mardi matin de l'autocar qui les a conduits jusqu'à l'hôpital Nasser de Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza, entouré par une petite foule fébrile brandissant des téléphones portables pour capter ce moment. Un autre titre à la une du Devoir, on en parle également à la une de la presse, Rouyn-Noranda, l'avenir de la fonderie Horn en péril. Glencore suspend ses projets d'investissement de 300 millions dans la fonderie abitibienne, texte de Mathieu Carbas. Glencore a fait savoir mardi qu'à défaut d'un accord avec le gouvernement de François Legault, elle abandonnait ses projets d'investissement à la fonderie Horn de Rouyn-Noranda. Cette décision remet directement en question l'avenir de la fonderie et de l'affinerie CCR ou CCR de Montréal-Est, car elle ne respecterait plus les normes environnementales gouvernementales en mars 2027, avant d'injecter davantage de fonds dans ses installations. Glencore voulait obtenir certaines garanties de la part du gouvernement Legault relativement à ses obligations environnementales. L'avenir de l'affinerie Est-Montréalais serait également sur la corde raide puisqu'elle ne pourrait survivre sans l'approvisionnement de la fonderie Rouyn-Norandienne. Dans une déclaration, le premier ministre François Legault, par ailleurs ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, a affirmé que son gouvernement avait comme double objectif de protéger et les emplois et l'environnement. Il a souligné que Québec avait fait un pas considérable en offrant de lancer le processus d'autorisation environnementale un an plus tôt. Il s'attend maintenant à ce que Glencore procède elle-même aux investissements nécessaire. De son côté, Glencore Canada dit avoir entrepris à partir de l'été dernier plusieurs démarches auprès du gouvernement du Québec afin d'assurer la pérennité de ses activités à Rouyn-Noranda et Montréal-Est. Malgré les efforts soutenus des deux parties, les conditions nécessaires ne sont pas suffisamment réunies pour permettre à Glencore Canada d'aller de l'avant, explique la multinationale par voie de communiqué. Pour le maire Gilles Chapadeau, le coût est difficile à encaisser. Il déplore que ni Ottawa ni Québec ne soient parvenus à une entente avec Glencore. Le Devoir en France, le Québec se fait voir au Cannes du court-métrage en France. Clermont-Ferrand en Auvergne accueille chaque année l'un des plus importants festivals de court-métrage au monde. C'est Sarah-Louise Pelletier-Morin qui est à Clermont-Ferrand et qui écrit cet article publié à la une du Devoir d'aujourd'hui. Clermont-Ferrand accueille chaque hiver l'un des plus grands rendez-vous du court-métrage au monde. Son ampleur donne le vertige. 8826 films reçus, au-delà de 500 projetés et plus de 173 000 entrées l'an dernier. Et pendant quelques jours, la ville se met entièrement à son diapason. À Clermont-Ferrand, le court-métrage n'est pas un format, c'est un rythme qui impose sa cadence, crée des rendez-vous et fabrique des rencontres. Tout se fait à pied dans cette ville à taille humaine. Ce qui frappe surtout, c'est la densité du public. On raconte même que des écoles amènent des élèves à des projections, histoire de générer une cinéphilie au présent et de ne pas seulement la rêver pour plus tard. Et c'est une excellente idée, d'autant plus qu'on apprend aujourd'hui, en tout cas dans la presse, c'est ce que j'ai lu, les films québécois sont de moins en moins populaires. On a des chiffres à l'appui et j'essaie de trouver l'information en vous parlant. À propos de cette nouvelle, une mauvaise année pour le cinéma québécois. Le cinéma québécois a connu un recul en 2025, tout comme le box-office global dans la province, révèle les chiffres dévoilés mardi par la firme Signac, survol des données en 5 points Enfin, un des points, c'est que le box-office est en baisse. Un autre, un recul aussi pour le cinéma québécois. Le cinéma québécois a connu un recul. Les recettes de 2025, 10 540 038 $ sont les plus basses depuis 2016, 8 836 934 $ si on exclut les années touchées par les règles sanitaires liées à la pandémie. À titre comparatif, en 2024, le cinéma québécois avait récolté près de 8 millions de plus qu'en 2025, soit 18 196 733 $. La meilleure année de la décennie, 2017, avec des recettes de 20 260 672 $, en espérant que ça remonte, parce que notre cinéma québécois, c'est nous, et il s'en fait du très, très bon. Bientôt, dans le pétrin, c'est à la une de la presse d'aujourd'hui un article très troublant par Patrick Lagacé. Lisette Perron, 65 ans, n'est plus admissible à l'aide sociale, le chèque de pension fédéral ayant pris le relais, et du même coup, la RAMQ ne rembourse plus qu'une fraction des sacs de stomie à cette femme atteinte d'un trouble intestinal permanent. Manque à gagner 5 700 $ par année. Il y a l'équipe de Manon Massé qui fait des pieds et des mains pour essayer d'aider cette dame, Lisette Perron, ainsi que le chroniqueur Patrick Lagacé. Pour l'instant, leurs demandes ne sont pas écoutées. Restez avec nous pour la suite d'Au quotidien.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Jogo da amarelinha na linha não vai pisar. Pé dentro, pé fora, esse pé não vai errar. Jogo da amarelinha é pra menina pular. Cuidado pra não errar, que a vida é curta, menina, e nada se vai levar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. Jogo da amarelinha e a vida quer durar. Tem um diamante de um bico, cuidado, pode quebrar. Menina pequenininha, tonta de tanto chorar. Te choro uma lagoa e ela que vou me baiar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. Tonta de tanto chorar. Te choro uma lagoa e ela que vou me baiar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. La 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 la.
La Marelle, pardon, chantée par Birds on a Wire.
Avec Apprivoiser l'argent, Marianne Spear propose un guide accessible pour démystifier les finances personnelles et aider chacun à faire des choix éclairés en accord avec ses valeurs et ses objectifs. Marianne Spear est au bout du fil. Bonjour, Marianne.
Bonjour, Hélène.
Alors, qui êtes-vous? Qu'est-ce qui vous a amené dans le milieu des finances, Marianne?
Ah, c'est une longue histoire. J'en parle un petit peu dans le livre, mais depuis toute jeune, là, j'ai quand même des questionnements. Tu sais, je vois que j'ai des amis qui ont plus d'argent que moi, d'autres qui en ont moins, des activités que mes parents disent oui, d'autres non. Fait que j'ai toujours eu des questions un petit peu d'ordre économique. Puis quand c'était le temps de décider, dans le fond, au secondaire, dans quoi on allait étudier au cégep, ben moi, à ce moment-là, ma mère venait d'avoir un diagnostic de cancer, puis je l'avais aidée au niveau de sa réclamation d'assurance, puis mon petit copain était un petit peu plus vieux que moi, puis il commençait à avoir des problèmes de carte de crédit, puis je me suis dit, oh mon Dieu, mais là, moi, je m'en vais dans ma vie d'adulte, puis j'ai aucune connaissance sur les finances personnelles, fait que je suis allée étudier en services financiers en sachant pas trop si ça allait me passionner, mais en sachant que ça allait m'aider, du moins, dans ma vie d'adulte, puis finalement, j'ai adoré le domaine, puis j'ai rapidement voulu commencer à redonner des informations utiles que moi j'avais dans mes cours. Fait que j'ai eu une émission à ma TV, une émission citoyenne, j'ai donné des ateliers aux nouveaux arrivants. Et là, ultimement, ben, on est venu Apprivoiser l'argent, qui est vraiment le projet dont je suis plus fière.
Ah oui, hein, votre premier livre qui est très agréable à feuilleter. Vous parliez de votre mère qui a eu des problèmes de santé. Elle va bien aujourd'hui?
Oui, elle va très bien. Elle va sûrement nous écouter.
Super. Et votre petit copain, est-ce qu'il a encore des problèmes avec ses cartes de crédit? Vous êtes pas au courant?
Ah, oh, ça, seul Dieu le sait, parce que...
Il n'est plus dans votre vie.
Avec lui. Oui.
OK. Alors, présentez-nous votre livre « Apprivoiser l'argent ». C'est dans la collection « Apprivoiser ». Donc, on a eu « Apprivoiser la politique » et maintenant, c'est « Apprivoiser l'argent ». C'est quoi l'objectif de ce livre-là? Qui s'adresse?
C'est vraiment, dans le fond, notre public cible, c'était 25-35, mais on se rend compte que les jeunes aujourd'hui, avec leur cours d'éducation financière au secondaire, sont déjà très informés, donc ils pourraient très bien se retrouver dans ce livre-là. Là, fait que je dirais vraiment 18-35. Puis même au-delà de ça, ça peut être pertinent parce qu'il y a vraiment des histoires comme d'où vient l'argent, c'est quoi l'histoire de la première compagnie d'assurance qui se trouve à l'intérieur. Puis l'objectif avec ça, c'est vraiment d'offrir comme les bases aux citoyens qui vivent dans notre façon de vivre, là, mm-hmm. D'avoir des bases citoyennes en fait pour bien évoluer là-dedans, faire des bons choix, pas se faire avoir. Puis tu sais, quand on parle de faire des bons choix, c'est comme vous avez dit dans l'introduction, c'est vraiment les choix qui sont alignés avec nos valeurs. Fait qu'on n'est pas dans un texte prescriptif qui donne une recette là, toute écrite, comment arriver à la richesse et tout. C'est plus un livre qui pose la question, c'est quoi la richesse pour vous? Puis ensuite, qui vous donne des outils sur comment y arriver.
Et quelqu'un là, qui s'intéresse pas beaucoup à tout ce monde-là des finances, de l'argent. Est-ce que vous pensez que votre livre va finalement faire en sorte qu'il va s'y intéresser? Parce que j'en connais des gens qui veulent rien savoir, là, qui laissent ça entre les mains d'autres personnes. Et pourtant, il faudrait être plus responsable, j'imagine.
Ben, c'était vraiment notre plus grand souhait. C'était un petit peu audacieux aussi, là, de se dire que notre public cible, c'est ceux qui s'intéressaient pas à ce qu'il y avait déjà en librairie à ce sujet-là. Puis de ce que je vois à ce jour, c'est sûr que bon, on m'a dit que je pouvais pas avoir accès là, au chiffre de vente avant au moins un an, mais de ce que je vois sur les réseaux sociaux et tout, on arrive vraiment à aller chercher notre public cible. Puis aussi de ce que je vois dans ma clientèle, parce que moi, je suis aussi conseillère en sécurité financière, mes clients qui justement sont ceux qui s'y intéressent le moins, que quand je leur avance des concepts, que, tu sais, je suis quand même obligée de leur expliquer pour qu'ils comprennent des produits dans lesquels ils sont, oui. Des choses comme ça, ils me regardent puis ils disent comme ça, c'est Marianne, je sais que tu dois me l'expliquer, mais tu sais que ça m'intéresse pas trop, tu sais. Puis des gens surtout très, très visuels, ben ces clients-là m'ont dit qu'ils allaient acheter le livre puis que ça les intéressait vraiment, puis il y en a qui l'ont déjà en main. Puis je vois que ça a capté leur attention. Fait que je pense qu'on va vraiment réussir à le faire avec ce livre.
Il y a de l'espoir. Marianne Spear, votre livre aborde les bases, comme le budget. Pourquoi c'est un outil numéro un pour reprendre le contrôle de ses finances, faire un budget?
Parce que c'est vraiment un outil qui, tu sais, dans le fond, on peut pas savoir où on va si on sait pas d'où on vient. Là. C'est un petit peu ça, le budget. Là. C'est bien beau de se mettre des objectifs et tout, mais après, faut regarder c'est quoi nos habitudes, puis est-ce que ce qu'on fait concrètement dans la vie de tous les jours, ça nous permet d'y arriver. Puis c'est vraiment juste le budget qui nous permet de faire ça. Mais je comprends que le budget, c'est peut-être un exercice qui semble gros, même si c'est... C'est simple en tant que tel, mais aujourd'hui, dans l'ère numérique où tout est extrêmement rapide, où faut vraiment que tout aille très vite, je pense que ça peut sembler gros pour certaines personnes de faire le budget. Des petits trucs que je donne à ce moment-là, c'est commencez pas tout de suite à faire votre budget, faites juste commencer avec une micro-habitude, comme de regarder votre compte de banque avant de faire une dépense. C'est rapide, on le fait ça aidé. Puis après ça, de commencer à garder un petit peu comme à chaque jour sur un chiffre Excel les dépenses que vous faites, puis à la fin d'un mois d'avoir fait ces deux petits exercices-là, là, vous pourrez monter votre budget, puis vous allez avoir plus en tête les dépenses que vous faites, puis vous allez avoir bâti comme un petit peu sans le vouloir, là, vous allez avoir regagné un petit peu confiance en vous juste parce que vous allez avoir adopté ces deux petits
habitudes. Oui, et ça, c'est ça, ça va créer une sorte de rituel. On ne pourra plus s'en passer comme se brosser les dents. Il faut faire son budget. Moi, j'avais un père qui faisait son budget et qui arrivait à la scène près. Et il était très fier. Et nous aussi, de lui, mais on dirait que moi, j'étais sécurisée dans ma famille. Donc, mais j'ai pas appris à faire un budget. C'est-tu assez nono, là? Mais il n'est jamais trop tard.
Oui, puis tu sais, je dois dire, j'ai plein de clients qui n'ont jamais fait de budget, puis quand ils sont arrivés devant moi, il n'y avait pas non plus de problème financier. Là, tu sais, il y en a que c'est juste comme intuitif, ils ne dépensent pas plus que ce qu'ils ont, puis c'est assez clair pour eux, c'est quoi leur objectif. Moi, je me permets de faire un budget avec eux juste pour m'assurer que mes recommandations rentrent dans ce qu'ils font. Puis ce que je me rends compte en faisant cet exercice-là avec eux, c'est que souvent, ça les rassure. Parce que même s'ils s'en doutent que ça va bien parce que ben ils n'ont pas de problème de dette ou autre, ils sont jamais sûrs d'être au bon endroit. Puis là, de faire un budget, c'est comme si ça les rassure. Mais tu sais, ces gens-là, je leur conseille pas non plus. Je leur dis pas de à chaque jour garder chacune de leurs dépenses. Tu sais, ça serait un peu pas mettre ses énergies au bon endroit. Fait que c'est là aussi où dans le livre, on amène les gens à être francs avec eux-mêmes, puis à adopter les habitudes qui vont les aider, puis à laisser de côté ceux qui ne sont pas pour eux.
Et je vous demandais un ou des conseils pour diminuer nos dépenses et augmenter nos revenus, qu'est-ce que vous répondriez?
Un conseil?
Oui.
Pour diminuer nos dépenses, augmenter nos revenus. Je pense que le premier truc que j'ai donné, de regarder son compte avant de dépenser. Tu sais, surtout le soir, si on est habitué à peut-être magasiner un petit peu en ligne ou autre, à chaque fois qu'on vient pour faire un achat, de regarder son compte avant, je pense que ça peut vraiment aider à dépenser de façon plus consciente puis à réduire dans les achats superflus. Puis sinon, pour augmenter ses revenus, c'est sûr que de placer son argent selon son profil d'investisseur, il y a beaucoup de gens qui vont comme juste laisser ça en épargne. C'est sûr que c'est se priver d'une source de revenus future. C'est juste qu'on la verra pas tout de suite.
Est-ce que c'est vrai qu'il faut avoir de l'argent pour faire de l'argent?
Oui, quand même. Un certain mot. C'est qu'il faut avoir une marge de manœuvre. C'est ça qu'on explique dans le livre.
T'sais. Pas de marge de crédit, une marge de manœuvre.
C'est ça. C'est revenu moins dépenses. C'est pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, mais il faut créer de l'espace. Puis je comprends qu'il y a des périodes dans notre vie où est-ce que c'est absolument pas possible. J'en ai des clients, jeunes étudiants ou des jeunes familles où est-ce qu'on se sent vraiment accroché on se sent vraiment étouffé là, par nos finances. C'est des périodes plus difficiles, mais à ce moment-là, si votre conseiller n'est pas en mesure de vous aider, il y a des ressources comme Options consommateurs qui font des consultations budgétaires puis qui vont pouvoir vous guider pour vous assurer que vous êtes dans les bons produits de crédit, que vous payez le moins d'intérêt possible. Puis, la vie financière, c'est une roue, là, puis on a différentes saisons. Puis c'est sûr qu'il y a des saisons où est-ce qu'on va se sentir plus étouffé que d'autres, mais il ne faut pas... Il ne faut pas penser que ça définit absolument toutes les saisons de nos vies financières.
Votre livre, Apprivoiser l'argent, ce n'est pas un livre de recettes, là, mais c'est un livre. Est-ce que c'est vous qui avez pensé au look, si je peux m'exprimer comme ça, du livre?
Ouais.
Parce qu'il est très agréable, justement, feuilleté. Il y a de la couleur, il y a du noir, il y a du blanc, il y a du bleu aussi. Et c'est dynamique, c'est pas plate à feuilleter.
Ouais, ben c'était toujours dans notre intention de le créer de cette façon-là, mais j'avoue que pour les couleurs puis vraiment les photos qui ont été choisies et tout, c'est vraiment le travail là du directeur artistique qui est incroyable. Mais c'était dans notre, c'est dans la façon que je l'ai écrit puis dans la façon qu'on le pensait, on savait qu'on voulait un produit dans ce style-là absolument.
Mm-hmm. J'aperçois un cornet de crème glacée, il y a aussi un raton laveur. Vous donnez des trucs sur le pouce pour mieux investir aussi. Puis ce sont des phrases finalement comme débuter le plus tôt possible à la hauteur du budget disponible, respecter son profil d'investisseur, avoir une bonne diversification. Ça veut dire quoi, ça, avoir une bonne diversification?
Bien, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Fait que quand on parle d'investissement, par exemple, c'est pas être dans seulement une classe d'actifs. Fait que les actions, les obligations, c'est d'avoir, c'est d'être séparé, d'avoir ces deux classes d'actifs-là, puis il peut en avoir d'autres, comme de l'immobilier. Il y a d'autres classes d'actifs qui existent, avoir des parts dans une entreprise à titre d'investisseur privé ou autre. Puis c'est aussi d'être diversifié au niveau géographique, fait que pas tout au Canada, pas tout aux États-Unis, pas tout en Europe, pas tout en Chine. C'est de pouvoir aller chercher les opportunités quand ils vont se présenter, puis de pas être au 100% concentré au mauvais endroit le jour où ça pète. Là. Puis finalement, c'est d'être diversifié au niveau secteur économique, fait que de pas être tout investi dans le secteur des technologies, de pas avoir tout son argent dans le secteur de la santé, dans le secteur automobile. Par exemple.
Ouais.
C'est vraiment diversifié de cette façon-là, mais c'est pas non plus d'être éparpillé. Fait que, il y a quand même certaines stratégies puis des analystes là, qui s'assurent de mettre des stratégies qui sont pas non plus de l'éparpillement, mais c'est de pas mettre tous ses œufs dans le même panier au final.
Est-ce que c'est un mythe de croire que les placements les plus risqués sont toujours les plus rentables?
Il y a une corrélation là, risque versus, c'est qu'il y a une corrélation risque versus potentiel de rendement, mais c'est pas plus qu'il y a de risque, plus qu'il y a de rendement. C'est vraiment un rendement potentiel. Fait que, puis on peut retrouver un petit peu cette relation-là dans plusieurs emplois aussi. Là. Si on regarde des emplois plus risqués, qu'on est moins sûr d'obtenir une place, d'être engagé, que ça demande des grosses études, ben qu'on risque plusieurs années de nos vies, dans le fond, à ne pas faire de revenus, ben ces emplois-là, des fois, vont être payés plus cher, mais ça veut pas dire qu'on va finalement aller travailler dans ce domaine-là, qu'on va obtenir l'emploi qu'on veut. C'est la même chose un petit peu pour les investissements. Là. C'est sûr qu'une nouvelle compagnie qui entre en bourse, qui vaut 1$, ben elle a la possibilité d'en valoir 100 000, 2000 éventuellement, mais elle a aussi la possibilité qu'il y a des choses qui se passent là, dans ses premières années, puis que finalement elle ne survive pas, puis qu'elle fasse faillite. Fait que c'est sûr que cette entreprise-là, il y a un plus gros potentiel de rendement que, par exemple, une obligation que le gouvernement du Canada émettrait, puis tu émettrait un taux fixe, là, mm-hmm. mais ça reste vraiment un potentiel de rendement. Donc, c'est ça qu'il faut être capable de prendre du risque
ouais.
à la hauteur de son profil, de sa tolérance au risque, là, mais c'est pas un plus un égal deux. Là.
Non. On est dans les chiffres, mais c'est on est aussi dans la personnalité de la personne, parce que oui, il y en a qui sont à l'aise avec le risque, puis il y en a d'autres qui préfèrent avoir des placements un peu plus dits pépères, si je peux dire, ou un mélange de tout ça. Et il me reste un peu de temps juste pour aussi dire que vous expliquez la différence entre le REER et le CELI. Il y a des gens encore qui se posent la question?
Je pense que oui, surtout avec l'arrivée du CELIAP. Là, il y a beaucoup de gens qui se trompent plus de CELI-CELIAP. J'ai vu même en fait des jeunes mettre de l'argent dans un CELIAP en pensant que ça allait la même utilité qu'un CELI.
Ah.
Puis là, à ce moment-là, ils ne peuvent pas sortir leur argent. Ou s'ils sortent, ils vont être imposés dessus parce qu'ils ne sont pas nouvellement propriétaires. Là. Fait que,
oui, il y a une différence vraiment fondamentale. Là.
Oui, absolument. Ouais. Puis c'est si on disait la différence entre CELI et CELIAP, ben, on n'a pas le choix de parler du REER aussi. Là. Mais c'est vrai que c'est une question que je trouve qui revient de moins en moins. Puis je pense que c'est rentré là, dans l'esprit des gens. Il faut quand même... Gardez en tête que le CELI est arrivé en 2009, là, fait que, il n'est pas si vieux que ça. Fait que
non,
c'est
non.
C'est quand même normal qu'après bon, après 15 ans, là c'est ancré dans la tête des gens. Mais c'est fait que le CELIAP, on en a pour 15 ans encore.
Bon, alors on va se pencher sur tout ce que vous venez de nous dire et surtout s'intéresser à votre livre. Je l'ai pas lu de A à Z, mais je l'ai parcouru et je trouve qu'il donne vraiment envie de s'intéresser à nos affaires. Il y a tout un lexique. C'est ça débroussaille Bien, tout l'aspect financier et aussi ça nous donne des clés pour nous donner envie d'être responsable de nos avoirs et justement pour pas se faire avoir. Apprivoiser l'argent, c'est écrit par Marianne Spear et c'est publié au Parfum d'encre. Merci d'avoir été avec nous, Marianne.
Merci à vous, Hélène. Bonne journée.
Bonne journée. On prend maintenant des nouvelles du Canada francophone avec Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Franco-Presse. Bonjour Julien.
Bonjour Hélène.
Alors, allons-y avec des organismes qui se regroupent sous un même toit pour assurer la vitalité de la francophonie. On en parle dans Franco-Presse, justement.
Oui, c'est une grande. C'est quelque chose de constant en francophonie minoritaire. Là, il y a souvent des projets de regroupement d'organismes qui sont en chantier. C'est actuellement le cas en Nouvelle-Écosse, en Saskatchewan et au territoire du Nord-Ouest. Fait qu'on s'est intéressé à ce phénomène-là un peu. Est-ce que le résultat est positif ou négatif quand les organismes décident de se regrouper sous un même toit? Là, ça peut être des raisons économiques, mais ça peut être aussi pour des raisons de collaboration plus facile. On a parlé à la chercheuse Anne Gilbert qui dit qu'une concentration de la francophonie, que ce soit par les organismes ou des services, bien, ça vient appuyer la vitalité de la langue. Ça peut aussi renforcer le sentiment d'appartenance si le centre est utilisé par le public. Parce que quand les services sont dispersés, ça peut réduire la visibilité de la francophonie, puis limiter donc l'engagement des membres de la francophonie. Madame Gilbert dit qu'elle a constaté ça à Edmonton et Calgary. Les francophones sont deux fois plus engagés dans leur communauté que ceux de Toronto qui n'ont pas beaucoup moins de services centralisés, qui sont un peu plus dispersés dans la ville. Il y a des limites à ça, par contre. Les projets dépendent beaucoup de financement du gouvernement. Fait qu'il y a un groupe à Toronto, justement, qui voulait créer une maison de la francophonie, puis qui étaient bien avancés dans leur projet. Il y avait des semi-promesses d'investissement du gouvernement, puis finalement, c'est tombé à l'eau parce qu'on finit par perdre l'appui, puis les gouvernements se renvoyaient la balle. Il existe néanmoins des façons de garantir un certain succès. Il y a des exemples à Sudbury, puis Vancouver, où on a intégré les services de garderie ou de prématernelle dans les édifices, ce qui fait que ça donne un service qui a un roulement, qui rapporte un peu plus de revenus, puis qui donne une visibilité au centre. Puis il y a aussi ces deux centres-là, c'est des centres avec des salles de spectacle qu'on peut louer. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il faut ouvrir les portes, il ne faut pas limiter ces locations-là aux francophones, il faut ouvrir les portes aux allophones et aux anglophones pour assurer une bonne rentabilité de ces lieux-là.
Par ailleurs, dans Acadie Nouvelle, on parle des producteurs de sirop d'érable du Nouveau-Brunswick qui doivent augmenter la cadence.
Oui, je me suis dit qu'on va parler de sirop d'érable, ça s'en vient bientôt. Puis le Nouveau-Brunswick, on apprend dans le texte, entre autres, c'est que le Nouveau-Brunswick est le troisième producteur de sirop d'érable après le Québec et le Vermont. Tout ça a été dit lors de l'Assemblée générale annuelle de l'Association acéricole du Nouveau-Brunswick. Puis, selon les données qu'ils ont présentées, la demande mondiale a augmenté de 6 % en 2025. Puis le Nouveau-Brunswick, même s'ils sont troisième, ne représente que 3 % de la part en sirop d'érable sur le marché mondial. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a de la place à la croissance aussi parce que on pourrait en profiter parce qu'il y a 250 producteurs de différentes tailles au Nouveau-Brunswick. Ce qui leur manque principalement, c'est un appui gouvernemental, mais pas nécessairement un appui financier. Ils pourraient avoir plus de terres de la couronne consacrées à la culture du sirop d'érable. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a 5 % de ces terres-là qui appartiennent au gouvernement qui sont couvertes d'érable, mais qu'il y a seulement 0,65 % qui sont occupées ou exploitées par les producteurs de sirop d'érable. Donc, il reste de la place pour agrandir le marché ou du moins l'exploitation. Puis les permis d'exploitation prennent beaucoup de temps à être délivrés, puis on souhaite que le gouvernement accélère ces processus-là.
Êtes-vous un amateur de sirop d'érable?
Qui ne l'est pas?
Je ne sais pas. C'est délicieux. Et un amateur de cabane à sucre?
Oui, quoi que ça fait longtemps que je suis allé.
Oui, hein, quand on est petit, il me semble que quand on est enfant, c'est une tradition, puis ça se perd un peu, mais il y en a qui ne manquent pas le rendez-vous annuel. Là. Il y a des cabanes à sucre qui ouvrent en février, on dirait. Il y en a qui sont pressés, en tout cas. Mais il me semble que ça on fête bien le printemps. Là. Aller à la cabane à sucre en mars, avril, c'est l'idéal, en ce qui me concerne. Un voyage du ministre de l'Éducation qui fait sourciller des profs, c'est dans le droit.
Oui, le ministre de l'Éducation, Paul Calandra, s'est rendu au Royaume-Uni il y a quelques semaines. C'était pour participer à une conférence mondiale sur l'éducation, mais ce qui dérange surtout l'Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens, c'est qu'il a visité l'école Michaela Community School, qui est une école à charte réputée comme étant la plus stricte de la Grande-Bretagne. L'association n'a pas d'objection à ce que le ministre voyage et aille chercher d'expertise ailleurs, mais... ou qui participe à des conférences internationales, mais ce qu'on regrette, c'est qu'ils ne consultent pas les gens qui sont sur le terrain en Ontario. Donc, on va chercher l'expertise ailleurs, mais on ignore celle qu'il y a ici, d'après eux. On se demande aussi si c'est une dépense justifiée, alors que le gouvernement dit vouloir ramener une saine gestion financière au sein des conseils scolaires. L'association est également inquiète que l'idée soit d'amener un peu plus de privatisation dans l'éducation comme il y a dans d'autres pays. De son côté, le bureau du ministre défend vigoureusement la démarche. Il affirme que ce qu'il cherche, c'est des solutions pour que les élèves obtiennent des meilleurs résultats en Ontario, puis que les enseignants parlent souvent de civilité dans les écoles, donc un autre point sur lequel se concentrer. Mais le bureau du ministre précise qu'ils n'ont pas l'intention d'apporter des écoles à charte en Ontario. Je ne sais pas si j'ai besoin de préciser ce qu'est des écoles à charte, là, mais c'est dans le fond, c'est des écoles qui sont quand même financées par le public, mais qui ont une politique d'enseignement différente, qui doivent respecter le curriculum, mais qui sont un peu plus indépendantes du gouvernement pour leur gestion.
Merci de la précision. On reste dans le domaine de l'éducation. La moitié des enseignants manitobains victimes de violences et de harcèlement. C'est un vrai problème, ça.
Oui, puis c'est une conclusion à laquelle arrive une doctorante qui est aussi enseignante au Manitoba. Elle a fait un sondage auprès de 191 enseignantes et enseignants, puis 54% ont déclaré avoir été victimes de violences physiques ou verbales au cours de l'année 2023-2024, puis 47% ont dit avoir été victimes de harcèlement. La première source de ces violences et harcèlements-là, c'est souvent les enfants, mais on compte aussi les parents là, comme deuxième source importante. Les résultats ne surprennent pas le milieu de l'éducation là-bas, nous dit l'article de La Liberté, parce que c'est ce qu'on constate sur le terrain et dans d'autres recherches similaires qui ont été faites en Colombie-Britannique et en Ontario. Une des raisons évoquées, c'est l'augmentation du nombre d'élèves par classe, il y a aussi l'augmentation des élèves qui ont des problèmes d'apprentissage, couplée avec la diminution du nombre de personnes qui peuvent offrir des services à ces élèves-là, ou du moins une stagnation qui fait qu'il y a plus d'élèves qui ont des difficultés, qui n'ont pas d'aide, alors qu'il y en aurait besoin. Pour la doctorante qui a fait la recherche, ça explique aussi pourquoi il y a une pénurie d'enseignants un peu partout. La solution, c'est, ben, ça fait, il y a la formation qui peut être utile, mais il y a aussi des suivis conséquents. Je donne l'exemple que des élèves qui font quelque chose de mal, ben, sont un peu réprimandés, peuvent être envoyés à la maison, mais reviennent à l'école le lendemain sans conséquence. Là. Donc, on dit faut trouver une façon de faire comprendre de façon plus claire que c'est pas bien de faire du harcèlement ou de la violence physique.
Tout le monde doit faire sa part et ça commence souvent à la maison. Une francophonie bien représentée, mais sous-étudiée au Yukon, c'est dans l'aurore boréale et ce sera votre dernière nouvelle.
Oui, c'est un peu le cas partout parce que, bon, en francophonie minoritaire, on a toujours l'impression de devoir justifier notre existence, puis les services, puis l'argent qu'on demande et qu'on reçoit. Puis, au cours des dernières années, ça s'est fait beaucoup sous le signe des apports économiques. Puis au Yukon, il y a justement une étude qui a été faite récemment, fait qu'on a constaté en 2021 que même si la francophonie yukonaise représente 5% de la population, ils étaient derrière 6,1% des entreprises, donc ils sont un peu plus entrepreneurs, on va dire. On manque cependant de données. On ne sait pas de quel type d'entreprise il s'agit, de quel type de propriété. Donc, il manque beaucoup d'informations comme ça. Puis, il manque aussi le poids économique exact. Ça reste un mystère. Il y a le réseau de développement économique et d'employabilité du Canada qui a fait une recherche puis qui a déterminé que pour chaque dollar investi dans des entreprises que ce réseau-là aide, rapporte 6,60 $ au PIB national. Mais au Yukon, les données qu'on a utilisées sont des données seulement des entreprises qui ont eu de l'aide de l'association franco-yukonaise à travers son programme d'aide aux entreprises. Donc, on sait quand même que ces entreprises-là apportent 5,1 millions de $ et 60 emplois à l'économie du territoire. Mais pour les autres entreprises qui n'ont pas eu besoin d'aide, c'est un mystère.
Là-dessus, on se dit au revoir. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Merci, Julien. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'émission. On se retrouve demain à compter de 9h30. Bonne journée.